Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure pour parler cinéma et c'est le grand retour du blind test. On n'a pas pu le faire la semaine dernière alors qu'on parlait du film de Luc Besson, Dogman, et donc nous allons jouer un blind test autour de la filmographie de Luc Besson. Bonjour Manu.
Bonjour.
C'est ton grand retour dans l'émission.
C'est mon grand retour aussi, oui, effectivement.
Et donc tu vas nous parler d'un film de procès.
Un film de procès, oui, le procès Goldman.
Quant à moi, je vous parlerai de Bernadette, espèce de biopic un peu étrange de Léa Domenach. Je vous parlerai aussi de The Creator, de Gareth Edwards. Guillaume, il vous parlera de Entre les lignes, dernier film de Eva Husson. Mais nous commençons cette émission avec une comédie venue de Roumanie. C'est un réalisateur qu'on compare à Godard. Alors on prend, n'attendez pas trop la fin du monde.
Ben oui, c'est le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Angela est une jeune assistante de prod. Elle se lève à 5h du matin, enfile la première robe à paillettes venue et part travailler pour une longue journée, traversant en voiture la ville de Bucarest pour collecter des témoignages de personnes ayant eu des accidents du travail. Ironie du sort, son employeur la force à travailler ainsi 16 heures par jour, tout en repoussant le moment de lui verser son salaire, mettant ainsi en péril sa santé. Bienvenue dans la Roumanie urbaine et contemporaine, où l'on travaille sans compter ses heures, où l'on participe au réchauffement climatique en roulant des heures en ville, où la misogynie et le harcèlement de rue sont encore omniprésents. Bref, où être une jeune femme, même avec du caractère, n'est pas chose aisée.
Bună ziua, mă numesc Ovidiu.
N'attendez pas trop la fin du monde. Le nouveau film de Radu Jude, le trublion du cinéma roumain, ne déçoit pas, quoiqu'il perturbe pendant un certain temps, et le film dure quand même 2h40. Radu Jude, qui a appris à bonne école, puisqu'il a notamment été l'assistant de Costa Gavras avant de récolter de nombreux prix pour ses courts et ses longs métrages, Sundance, La Berlinale, La Quinzaine, Locarno, pour N'attendez pas la fin du monde, d'où il est reparti avec un léopard d'argent. Son précédent film, Bad Luck Banging or Looney Porn, chroniqué d'ailleurs dans Cinérama, était un huis clos totalement farfelu et particulièrement corrosif qui prenait la forme d'une réunion parent-prof, laquelle se transformait bientôt en procès, puisqu'il s'avérait que la vidéo des ébats filmés d'une professeure avait fuité. N'attendez pas trop, la fin du monde va plus loin, sans doute, la forme diffère, le ton profondément critique envers la société roumaine reste le même. Jude ici joue sur la pluralité des supports. On se parle en visio pendant les réunions, on se filme en interview et paradoxalement, pour se détendre lors de sa longue journée de travail, Angela se filme encore sur son téléphone, puisqu'elle aime poster des vidéos sur TikTok dans lesquelles, affublée d'un filtre, elle incarne un ersatz roumain du masculiniste Andrew Tate.
Am stat în comă un an și o lună.
Présentée comme une sorte d'Alice au pays des merveilles modernes qui suit Angela entre ses rendez-vous chez des familles démunies, en train d'engueuler des automobilistes en voiture ou encore en réunion de travail dans des start-up, le film se construit sur deux temporalités. Il met en parallèle via son montage le temps présent, filmé dans un noir et blanc particulièrement granuleux et contrasté, et des extraits d'un vieux film roumain, un film de 1981 de Lucian Bratu, intitulé « Angela Mergue Mei Departe ». Alors j'ai traduit comme je pouvais, et cela signifie, je crois, « Angela va plus loin ». Un film qui raconte les pérégrinations d'une chauffeuse de taxi en plein Bucarest. Et ce que Radu Jude explique, c'est qu'il souhaitait faire dialoguer deux histoires. Le portrait d'une femme chauffeur dans la société capitaliste post-totalitaire, donc Angela, en 2023, par opposition à celui d'une femme chauffeur sous la dictature communiste, donc dans le film de 81. Alors, bien que le conformisme de ce dernier n'en fasse pas pour le cinéaste l'un des films marquants des années 80, époque, on le rappelle, hein, fortement dominée par la censure de l'art en Roumanie, Jude s'applique, en décomposant certaines images du film de 81, à montrer des détails que l'on ne verrait pas autrement qu'en ralentissant l'image. On voit parfois en arrière-plan des détails qui s'avèrent plus subversifs qu'on ne le croirait. On voit par exemple des centrales nucléaires ou encore des personnes en train de faire la queue pour obtenir des tickets de rationnement. Ces scènes coupées, ralenties, incorporées à l'histoire qui se déroule en 2023 comme pour montrer que Bucarest est aujourd'hui une ville martyre et que le régime de Ceausescu a détruit son propre pays, sont certes intéressantes, mais il nous faut quand même un certain temps pour comprendre où le réalisateur veut en venir, ce qui a pour incidence, hélas, de perdre le spectateur pendant une bonne partie du film. Dans la temporalité présente de N'attendez pas la fin du monde, Angela Raducanu, le personnage principal, interprété par l'incroyable comédienne Ilinka Manolache, évolue également au milieu des panneaux d'affichage, un autre support qui en dit long sur la situation actuelle de la Roumanie, entre annonces de bail à céder, pub pour la robotique chirurgicale avec uniquement des hommes médecins en photo, ou encore campagne pour relancer la fécondité. N'attendez pas trop la fin du monde est un film foisonnant qui joue férocement sur l'absurde pour dénoncer la situation d'un pays économiquement au plus mal. Un pays qui peut compter sur ses cinéastes afin de nous rappeler l'ironie de vivre et de se débattre à ce point, comme le dit le personnage principal, sur une planète à l'atmosphère composée majoritairement de paix.
N'attendez pas trop la fin du monde est en salle depuis le 27 septembre. Bernadette Chirac ne veut pas rester dans l'ombre de son mari, c'est ce qu'on apprend dans cette comédie avec Catherine Deneuve, c'est Bernadette.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Madame Chirac, comme Claude ne m'a pas donné de budget pour commander un vrai sondage d'opinion, je me suis permis d'en réaliser un moi-même sur le personnel de l'Élysée.
Quel est le point commun entre Bernadette, film de Léa Doménac avec Catherine Deneuve en salle depuis le 4 octobre, et Barbie, film de Greta Gerwig avec Margot Robbie, qui fut le carton de cet été? Alors oui, ce sont deux comédies, certes, mais ce sont surtout deux films qui abordent le rose sur leur affiche et deux films distribués par la Warner et également deux films qui penchent vers le féminisme. Alors pour Barbie, on le savait, que l'héroïne avait soif de faire plier le patriarcat, mais pour Bernadette Chirac, c'est un peu plus retors. Parce qu'on n'imagine pas la compagne de l'ex-président Chirac lire Simone de Beauvoir, militer aux côtés de Simone Veil pour l'interruption volontaire de grossesse. Et là, je sais qu'on va se couper de nos auditeurs de Corrèze qui vont devoir se boucher les oreilles pour cette chronique. Mais quand même, Bernadette Chirac, pour le reste de la France, c'est une femme de la haute bourgeoisie constamment à faire la tête et aux idées rétrogrades, voire réactionnaires. Alors il ne faut pas prendre Bernadette pour un biopic, mais pour une comédie ou, disons-le, un biopic fantaisiste. Comme on l'apprend de manière inattendue, à la manière d'un cœur antique, dès le début du film, ce qu'on va voir n'est pas la réalité, mais en est une variation. C'est-à-dire qu'il faut laisser tous les a priori que l'on peut avoir sur celle qui a fait deux mandats en tant que première dame de France et meneuse des pièces jaunes. Le plus étrange est le point de départ de Léa Doménac, fille d'un journaliste qui a bien connu Jacques Chirac. Alors elle dit avoir changé de point de vue sur Bernadette Chirac en regardant Bernadette Chirac, mémoire d'une femme libre, un documentaire réalisé, alors par qui ? Sa conseillère en communication. Voilà, tout est dit. Il ne faut donc pas s'étonner si Bernadette devient quasiment sympathique, alors qu'au départ, ce n'est pas gagné.
Je dois vous prévenir, les résultats ne sont pas bons. Les gens vous trouvent ringarde.
Bonjour Madame Chirac.
Bonjour Molinier.
Froide. 19,8.
Bonjour Madame.
Bonjour Madame Chirac.
Austère. Acariâtre à égalité avec revêche.
Oui, bon, ça va, j'ai compris.
Mais pas de panique. Nous allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage.
Bernadette met en scène une femme qui a suivi les mêmes études que son mari, mais à qui on demande de se mettre en retrait et qui ne le supporte pas. Son mari est président de la République et finira empêtré dans des affaires judiciaires quand Bernadette Chirac est élue de Corrèze et tente, comme elle le peut, de faire venir le TGV à Limoges. Alors pour construire son film, la réalisatrice est attachée à des choses que l'on savait sur Bernadette Chirac et d'autres que l'on apprend. Elle a pour cela regardé tout ce qui était possible sur le couple Chirac et en a tiré un grand nombre de petites phrases et d'anecdotes qui ont servi à écrire le film en respectant alors à la lettre la chronologie de 95, l'année où Jacques Chirac devient président de la République, à 2007, date de la fin de son deuxième mandat. Si le film s'appelle Bernadette, il ne s'attache pas qu'à la Première Dame de France, il incorpore un certain Bernard Niquet, Royal Denis Podalydès, qui doit donner une nouvelle image à Bernadette que Chirac appelle devant Villepin et ses copains « Moment ». Le duo va au-delà de ce que souhaite un Chirac, que l'on voit sans cesse perdu, accroché au basque de son épouse, mais toujours soucieux de l'écarter de la lumière. Alors nous voyons comment Bernadette Chirac élimine le chauffeur, met l'Élysée au diapason, instaure les pièces jaunes, soutient Sarkozy contre la vie de son mari, comment cette femme décide qu'elle ne peut pas rester dans l'ombre d'un mari qu'elle aime. Cependant, on ne voit pas grand-chose du couple Chirac comme on ne voit pas grand-chose des personnages secondaires. Villepin est méprisant comme d'autres, un parti pris de la réalisatrice qui nous fait eh bien, tout voir avec la fantaisie d'une Bernadette qui n'est pas celle dépeinte par les guignols de l'info, hein, par exemple, serrant son sein à main, mais une Bernadette éprise de liberté sans pour autant qu'on sache vraiment ce qu'elle ressent. Le jeu de Catherine Deneuve est passablement mutique, les gags ne sont pas tous drôles, même s'il faut bien l'admettre, il y a quelques bons mots. Alors difficile de savoir ce que ce film peut faire sur quelqu'un qui a de gros a priori sur Bernadette Chirac. Alors bon, quand même, pour l'avoir testé dans mon entourage, la vision du film a déclenché une petite vague d'indignation devant un personnage qui pourrait devenir un tantinet sympathique, tant les hommes qui l'entourent sont d'ailleurs pour la plupart à blâmer. C'est là aussi un des écueils de cette comédie qui s'apprécie, eh bien, si on est plutôt de droite.
À partir de maintenant, ça va filer droit à l'Élysée.
Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?
Bernadette de Léa Doménac est en salle depuis le 4 octobre. Pierre Goldman, militant d'extrême gauche, est accusé d'homicide. Il est défendu par un jeune avocat, Georges Kiegeman. On parle du procès Goldman.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Goldman, Pierre Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes. Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis.
Révolutionnaire dans l'âme.
Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster ?
Oui.
Et d'assassin ?
Non, certainement pas.
Et pour vous, il est innocent, vous ne vous posez pas la question.
On ne peut pas comprendre Pierre Goldman si on ne comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats.
Le procès Goldman marque le retour gagnant de Cédric Kahn, hein, cinéaste important des années 90, dont la carrière s'était un peu délitée hein, après l'excellent Feu Rouge en 2004. Alors il s'est confortablement installé hein, dans la petite famille du cinéma français avec des films moyens entre drames sociaux et conjugaux, hein, comme Les Regrets ou Une Vie Meilleure, et puis un ratage sur l'enfance avec L'Avion, et puis une comédie de groupe assez insignifiante avec Fête de Famille, sortie il y a 4 ans. Alors on n'attendait plus grand-chose d'un auteur fulgurant à ses débuts, hein, cristallisant le renouveau du cinéma d'auteur des années 90, hein, Barre des rails et Trop de bonheur, hein, d'ailleurs qui avait récolté le prix Jean Vigo en 94, sont parfaitement représentatifs de la vitalité de la production française de l'époque à travers de vibrants portraits sur la jeunesse. Avec son nouveau film, hein, il s'empare d'un grand sujet circonscrit à l'intérieur d'un genre casse-gueule, hein, le film de procès, basé sur un moment clé de l'histoire de France des années 70. Alors rappelons les faits, Pierre Goldman, activiste revendiqué à l'extrême gauche, et aussi petit malfrat notoire impliqué dans un certain nombre de hold-up qu'il n'a jamais démenti, hein, est accusé de meurtre en décembre 69 de deux pharmaciennes boulevard Richard Lenoir à Paris. Après un premier procès où il purge 6 ans de prison pour les délits qu'il reconnaît avoir commis, l'affaire est jugée en 1976 à Amiens pendant 7 jours d'audience où l'accusé ne cessera de clamer son innocence, appuyant sa défense sur cette phrase devenue célèbre, ben « Je suis innocent parce que je suis innocent ». Alors il ne s'agit pas pour Cédric Kahn et sa co-scénariste Nathalie Herzberg de chercher une vérité insondable, mais de dresser par le biais du huis clos le portrait d'une France un peu rance, contaminée par le racisme et l'antisémitisme, de décortiquer une société bien plus inquiète par les dangers de l'extrême gauche que par la montée des idées nauséabondes du populisme. Le film agit en miroir par rapport à notre époque, hein, révélant ainsi son étonnante modernité. Le procès Goldman dialogue aussi avec le récent Anatomie d'une chute, hein, pas seulement parce que Arthur Harari, co-scénariste du film de Justine Triet, interprète ici le rôle de l'avocat, maître Georges Kiegeman, mais aussi par sa réflexion sur la notion de perception que le spectateur peut avoir d'une vérité qui est poreuse, toute relative et constamment en mouvement. Alors nous croyons à ce que nous voulons croire, à ce que nous ressentons de juste. Coupable ou non, Pierre Goldman est surtout décrit comme la victime d'un système qu'il accuse avant tout d'être un juif militant aux idées révolutionnaires, tout comme l'héroïne d'Anatomie d'une chute était suspecte par le fait d'être une femme libre et forte, assumant sa bisexualité et son statut d'écrivaine qui avait réussi.
Pourquoi ce procès nous fascine tant? Pourquoi il est impossible d'en détourner les yeux?
Vous êtes qui pour parler de mes parents de cette façon? Vous avez fait quoi dans votre vie, vous? Mes parents sont des gens exemplaires et courageux, c'est des héros.
Comment décririez-vous l'homme que vous avez vu ce jour-là? Tournez-vous un peu vers le mur.
Tendu et prenant, hein, le procès Goldman affiche des partis pris formels, austères et cohérents, filmés dans un format 4 tiers, sans aucune musique, avec une image terne, télévisuelle, avec des dominantes marron, très raccord avec l'esthétique de la France giscardienne. Hein. Un montage aride et une succession de plans très serrés, cet instantané de notre histoire trouve un équilibre entre cinéma du réel et fiction romanesque. Alors ne serait-ce que pour les joutes oratoires des comédiens, parfois dans un jeu un peu théâtral, hein, notamment Ariel, Vortalter, je ne sais pas comment on prononce, mais je pense que c'est ça. Déjà impressionnant en flic torturé dans Bowling Saturn, avec ses faux airs de Gian Marianne Volonté, bah, il est impressionnant. Hein. Il vampirise littéralement l'écran dès qu'il prend la parole. Une parole fiévreuse et emportée, servie par des dialogues puissants, bien que parfois trop écrits, hein, à la lisière hein, de l'artificialité. Alors face à lui, Arthur Harari est très bon, hein, plus effacé, laissant toute la place à Pierre Goldman, qui était une figure très importante et emblématique de l'époque, hein, un symbole de l'antiracisme, mais surtout de l'antisystème. Alors en creux, puisque sa vie est en jeu, hein, le film nous parle d'un moment crucial où la peine de mort n'était pas encore abolie. Alors dans la vraie vie, hein, bon là je spoil, attention, hein, Pierre Goldman, frère d'ailleurs de Jean-Jacques Goldman, hein, qui est présent dans le film dans l'auditoire, hein, il est à peine âgé de 14 ans, il a été acquitté, hein, mais par un coup du sort, il fut assassiné 3 ans plus tard, en 79, par un membre de l'extrême droite. Le procès Goldman, bah, c'est un film passionnant, parfois un peu scolaire, c'est moi ma limite, hein, mais qui a le mérite de regarder en arrière pour pointer les travers de la société contemporaine, à savoir bah, les violences policières accrues, c'est déjà c'est un thème fort dans le film, la diabolisation aussi de la gauche contre une minimisation de l'extrême droite et la montée des idées xénophobes et racistes. Finalement, c'est toujours intéressant de parler du passé pour finalement évoquer le présent.
Mmh. Le procès Goldman est en salle depuis le 27 septembre. Allez, c'est maintenant l'heure du blind test.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Luc Besson, c'est plus de 20 films en 40 ans de carrière. Alors j'avoue que pour faire ce blind test, j'ai pris un peu ce que j'avais sous la main. Ce sera quand même un blind test assez facile. Donc nous jouons avec la filmographie de Luc Besson, premier extrait.
Madame Carman, il y a un ennui?
Rien. Je disais seulement à votre femme que je m'en branlais complètement des conneries qu'elle me raconte.
Elle n'a fait des excuses immédiatement, monsieur.
Des excuses? M'excuser de quoi? De supporter sa femme pendant 3 heures? Bah, change de place avec moi, gros malin. Tu vas voir comme c'est amusant la conversation ici.
Elle n'a quitté cette table immédiatement.
Monsieur le préfet, votre dîner est nul. Votre baraque est nulle. Et je vous emmerde tous.
Trouvé.
Oui, c'est donc Ce Bohème, film de 85.
Oui, avec Isabelle Adjani, qu'on entend, Christophe Lambert, qui a reçu un César, et puis Richard Bohringer. Après avoir dérobé les documents compromettants, un homme se réfugie dans l'univers fascinant et agité du métro parisien. Une impitoyable chasse à l'homme s'organise, au cours de laquelle d'étranges liens se tissent entre le cambrioleur et sa victime. 2,9 millions de spectateurs en France. Il y en a eu beaucoup plus pour ce film.
La vie que vous défendez avec tant de noblesse a pour origine la destruction, le désordre et le chaos. Prenez ce verre, par exemple, vide, serein, d'un ennui mortel. Mais si vous le détruisez... Regardez alors toutes ces choses, comme elles savent faire, et notez que chacune a sa place et sa mission à accomplir. Quel ravissant balai, quel enchantement de forme et de couleur. Hein? Alors pensez à ceux qui ont mis au point tous ces appareils. Des techniciens, ingénieurs, des centaines de personnes qui peuvent, grâce à cela, nourrir leurs enfants, lesquels deviendront un jour de beaux grands gaillards qui feront eux aussi de ravissants petits rejetons qui, à leur tour, se reproduiront, etc., etc., perpétuant ainsi la grande chaîne de la vie.
Alors, c'est trouvé.
C'est le cinquième élément.
Oui, film sorti en 97 avec Bruce Willis, Mila Jovovich, Gary Oldman. Au 23e siècle, dans un univers étrange et coloré où tout espoir de survie est impossible, sans la découverte du cinquième élément, un héros affronte le mal pour sauver l'humanité. 7,7 millions de spectateurs en France et puis 3 Césars, dont celui de la meilleure réalisation. Troisième extrait de ce blind test consacré à la filmographie de Luc Besson.
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi une grande journaliste comme vous se retrouve ainsi à piller des tombes?
Je ne pille pas, j'emprunte.
Oui, bien sûr, vous comptiez juste faire un petit tour avec, histoire de lui faire prendre l'air.
Patmosi, c'est professeur de médecine, docteur personnel de Ramsès II, le plus grand praticien que l'Égypte ancienne ait connu, son savoir n'a pas de limite. Et justement, j'ai besoin de son savoir.
Trouvé.
Et c'est les aventures d'Adèle Blanc-Sec, les aventures extraordinaires oui, d'Adèle Blanc-Sec.
Film de 2010, alors que la journaliste Adèle Blanc-Sec est en Égypte, un œuf de ptérodactyle vieux de 136 millions d'années a mystérieusement éclos sur une étagère du Jardin des Plantes et l'oiseau sème la terreur dans le ciel de la capitale. 1,6 million d'entrées en France pour ce film. Quatrième extrait.
C'est de l'alcool ? C'est interdit à cette profondeur ?
Hey, si t'as encore beaucoup de choses à nous interdire, tu nous fais une liste, comme ça on la collera sur le bleu, ok ? Juste ton doigt.
N'en blaguez pas, les gars. C'est très dangereux, l'alcool, avec cette pression.
Enzo, on est très profond, là, hein?
Vas-y, suce ton doigt. Ah oui, avec ça, on va voir des sirènes partout.
Une bonne tranche de rire dans les profondeurs, c'est...
Le Grand Bleu.
Oui, film de 88, la rivalité de deux enfants dans la mer en Grèce qui se poursuit lorsqu'ils sont adultes. Lequel des deux plongera le plus loin et le plus profond ? 9 millions d'entrées en France et 9 millions de personnes qui ont eu la réponse. Dernier extrait de ce blind test consacré à Luc Besson.
Et tu nettoies n'importe qui ?
Ni femme, ni enfant, c'est la règle.
Combien ça me coûterait d'engager quelqu'un pour descendre les fumiers qui ont tué mon petit frère ?
5-6 000 chacun.
Waouh. Bon, écoute, je te propose un marché. Je travaille pour toi, et en échange, tu m'apprends à nettoyer. Qu'est-ce que t'en dis ? Je te laverai ton linge, je rangerai l'appart, et je te ferai toutes tes courses. Alors, c'est oui ?
Non, c'est non.
C'est trouvé.
Bah, Léon.
Eh oui, film de 1994 avec la première grande apparition de Nathalie Portman, un tueur à gages répondant au nom de Léon prend sous son aile Mathilda, une petite fille de 12 ans, seule rescapée du massacre de sa famille, et bientôt Léon va faire de Mathilda une nettoyeuse comme lui. Et Mathilda pourra venger tranquillement son petit frère. 3,5 millions d'entrées en France. Ainsi s'achève ce blind test consacré donc à la filmographie de Luc Besson qui est en salle actuellement avec Dogman. Son précédent film Les Filles du Soleil avait été très mal accueilli à Cannes. Eva Husson revient avec Entre les lignes.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passerait aisément.
Un nouveau portrait de femme qui cherche l'émancipation pour la discrète réalisatrice Eva Husson. Alors après Bang Gang et Les Filles du Soleil, voici Entre les lignes ou Mothering Sunday en version originale. Alors qu'on peut traduire par Le Dimanche des Mères, qui est d'ailleurs le nom du roman court de Graham Swift dont il est adapté. Alors au scénario, une autre femme qui elle aussi a consacré sa filmographie au récit féminin et émancipateur, Alice Birch. Le duo a tiré la bonne paire, pourrait-on dire, car même si l'intrigue d'Entre les lignes se passe il y a presque 100 ans, il est également question d'une histoire d'amour moderne, une histoire d'amour moderne étant d'ailleurs le sous-titre de Bang Gang.
You have no family. You have absolutely nothing to lose. That is a gift, Jane, and you must learn to use it.
Qu'est-ce que l'on trouve entre ces fameuses lignes ? Eh bien, un écrivain, comme on pourrait s'en douter. Ou plutôt une écrivaine, Jeanne, qui fantasme la littérature et l'émancipation par l'écrit, et qui va tout faire pour trouver le ton juste à souffler à sa plume, alors que son quotidien n'est pas forcément des plus palpitants. Femme de chambre chez un couple d'aristocrates dans l'Angleterre de 1924, sa très modeste vie pourrait être limitée si Jeanne n'avait pas ses aspirations artistiques et une manière de se réapproprier le quotidien qui l'entoure. Car il ne faut pas chercher midi à 14h, comme dit la maxime consacrée. Jeanne découvre qu'elle a tout ce qu'il lui faut sous les yeux pour composer, transformer la vie de tous les jours en roman et poétiser des événements et personnes rencontrées pour pouvoir toucher le cœur des futurs lecteurs. Et même si son statut de domestique pourrait sembler austère, la maison dans laquelle elle se trouve se révèle être un savant réservoir à fiction. Tout d'abord, il y a ces femmes bourgeoises qui auraient tout pour être heureuses si la Première Guerre mondiale n'avait pas défiguré leur arbre généalogique. Des enfants devenus de jeunes hommes ne sont pas revenus du conflit ayant mis l'Europe à feu et à sang, et les chaises vides plombent terriblement le moral des pères et des mères qui essaient, comme ils le peuvent, d'aller de l'avant. Il y a aussi les jeunes filles promises à ces soldats valeureux et qui se retrouvent veuves avant même d'avoir eu la bague au doigt. Alors le spleen est donc palpable et l'existence semble cotonneuse lorsque la mort s'est invitée à l'endroit où on l'attendait le moins. Jeanne évolue parmi ces nobles brisés et tombe amoureuse d'un fils n'ayant pas pris part au conflit, mais qui est du coup promis à une jeune femme dont le premier prétendant et véritable amour a disparu au front. Cette relation clandestine est bien évidemment vouée à l'échec, quand bien même une surprise frappera le couple caché et qu'on se gardera bien sûr de vous le révéler. Et même si la structure fait régulièrement des va-et-vient entre 1924 et d'autres dates ultérieures, nous mettant ainsi en perspective ce qui inspire Jeanne et ce que cela a donné sur papier des années après, nous révèle qu'il y aura bon nombre de rebondissements dans les amours de la romancière en devenir puis affirmée, Tout cela ne gâche nullement le plaisir de la progression de l'intrigue. Car Eva Husson sait parfaitement comment mener sa barque dans ce qui aurait pu être une bluette sans intérêt. Avec l'aide de l'excellent script d'Alice Birch, elle sait nous rendre proche de Jeanne dès les premières minutes et partager tout ce qui fait la fraîcheur de son regard et la sensibilité de ses actes. Alors on aime, on pleure, on savoure tout avec elle et on s'intéresse à son parcours de vie qui, au final, se révèle en digérant dramatiquement et par le biais de la fiction celui des autres. La mise en scène très soignée s'est magnifiée et parfaitement utilisée le peu de décor mis en scène et arrive à retranscrire de manière lyrique l'état d'esprit d'un cerveau en pleine ouverture sur le monde, en pleine création et en constante mutation. Et parce que l'acte de création, inhérent aux femmes et donc ici double à l'écran, est quelque chose de profondément charnel, Husson ne recule pas devant un érotisme très bien vu et totalement assumé sur toute la longueur du long métrage. Dans le rôle de la nymphe créatrice, Odessa Young éblouie par son talent, sa sensibilité et sa beauté diaphane et tient la dragée haute aux valeurs sûres que sont Olivia Colman et Colin Firth. Si la première ne surprend pas tellement dans un énième rôle de femme perturbée, c'est le second qui rappelle à quel point il est un brillant comédien quand son personnage s'effondre, se rendant compte qu'il a perdu tous ses fils. Alors vous n'irez peut-être pas voir un Mothering Sunday un dimanche, mais il serait fort dommage de ne pas aller le voir tout court.
Entre les lignes est en salle depuis le 4 octobre. Dans un futur moyennement lointain, les Américains veulent éradiquer l'intelligence artificielle. C'est de Creator.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
Oui, ça va là ?
Exécutez-la, ou nous disparaîtrons.
The Creator de Gareth Edwards, à qui l'on doit le très réussi Rogue One, épisode de la galaxie Star Wars, s'est dit beaucoup moins, même s'il s'agit du meilleur départ de la semaine passée. Les salles étaient loin d'être complètes pour admirer un des rares films de science-fiction bien léché de la facture des Christopher Nolan ou d'un Denis Villeneuve, voire d'un Ridley Scott quand il réalisait Blade Runner. Car The Creator nous plonge dans un avenir proche dans lequel l'intelligence artificielle n'est pas seulement un programme avec un algorithme, mais prend la forme de robots qui ont l'apparence de robots, alors pas forcément élégants, mais aussi d'humanoïdes qu'on nomme les simulants. Alors nous sommes dans un monde bipolaire. D'un côté, il y a les États-Unis qui ont banni les IA et de l'autre, la Nouvelle-Asie où l'IA vit en parfaite harmonie avec les hommes. Pourquoi les États-Unis détestent les IA ? Eh bien, on apprend qu'ils auraient fait sauter une bombe nucléaire sur Los Angeles. Eh bien, depuis, les Américains livrent une bataille contre les IA. Alors, cela passe par une ingérence dans les États de Nouvelle-Asie. The Creator n'est pas tant une réflexion sur la dangerosité de l'IA, mais quasiment un film politique sur la mainmise d'un État sur un autre. Quand on voit débarquer les Américains et y mettre le feu dans cette Nouvelle-Asie, on pense forcément au Vietnam. Il apparaît d'ailleurs que tout dans The Creator est rétrograde, c'est ce qui en fait sa beauté.
Toi, tu veux aller au paradis ?
Non.
Pourquoi ?
Il n'y a que les personnes gentilles qui y vont.
Le réalisateur a fait le choix de tourner en décor naturel. Nous ne sommes pas dans des villes créées de toutes pièces par ordinateur, mais devant des infrastructures qui se mêlent à la nature. The Creator n'est pas celui dans lequel Apple a gagné la guerre de la tech, c'est le monde où le Walkman de Sony a gagné. C'est ce qu'a expliqué encore une fois le réalisateur Gareth Edwards. Donc c'est tout à fait notable. Cela se voit dans le choix des décors, dans le choix des robots assez rustiques et qui peuvent montrer une certaine patine comme dans la série Andor tirée de Star Wars. On peut voir les éraflures sur les cuirasses et les imperfections. Cela rend d'autant plus crédible le monde qui nous est proposé par le réalisateur. Alors côté immersion dans le futur, The Creator est une vraie réussite car il réussit à être crédible sans être un affreux produit des effets spéciaux. Mais là où le film pêche, c'est sur le scénario et tel qu'il est conduit. On nous demande à bien trop de reprises d'admettre des situations. Le pitch du film n'est d'ailleurs pas si facile à donner. Joshua, un soldat américain infiltré pour débusquer le chef des IA, voit sa femme mourir, tuée par les Américains. Miné, il rentre au pays et est rappelé 5 ans après, car les États-Unis pensent avoir une chance d'en finir avec les IA qui seraient en train de produire une arme redoutable. Mais ils ont besoin de renseignements qu'il a collectés. Alors on lui dit que sa femme a été vue vivante, l'appât est fort, il replonge. Et durant sa mission, il tombe sur l'arme tant redoutée. Il s'agit d'un enfant qui prend la forme d'un simulant. La relation qu'il va tisser avec cet enfant va le détourner de sa mission et lui ouvrir les yeux sur l'IA et les questions qui l'entourent. The Creator se veut être un film de science-fiction d'aventure doublé d'un film d'action avec des soldats américains tenaces et sans pitié. Alors on peut trouver que l'écriture est un peu naïve, nous emmenant sur des terrains qu'on connaît déjà, ne ménageant pas vraiment de surprises mais déroulant un canevas bien connu. Mais il n'empêche, l'enrobage est si convaincant qu'on ne peut que recommander d'aller voir The Creator. Et comme le dit son réalisateur, si les gens arrêtent d'aller voir des films de science-fiction, Hollywood arrêtera de les produire. Alors Canet disait aussi ça pour les Astérix, mais franchement, dans ce dernier cas, c'est moins grave. The Creator est en salle depuis le 27 septembre.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
La semaine prochaine, tu vas nous parler d'un film mexicain.
Lost in the Night de Amante Escalante.
Et Marine nous parlera de Je vous salue salope. C'est un documentaire sur le cyberharcèlement. Un documentaire très important. À la semaine prochaine.